Studio Tamani, voici nos informations en français.
Vous êtes à l'écoute de Studio Tamani, il est 18h, bonsoir et bienvenue, voici les titres de ce journal. Au moins 107 civils auraient été tués par les groupes terroristes et l'armée malienne au Mali depuis décembre 2021, selon Human Rights Watch. La Commission nationale des droits de l'homme demande l'ouverture d'une enquête indépendante. Un atelier de validation de l'avant-projet du cadre stratégique de la refondation de l'État s'est ouvert ce matin à Bamako. Les autorités assurent que tout sera mis en place pour l'application des propositions des assises nationales de la refondation. Sport football, dernier match de barrage pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Des joueurs maliens se mobilisent et offrent des tickets gratuits aux supporters pour assister au match. Point complet de ce titre dans un instant avec Assetou Kanté. Salim Diouara assure la technique. Human Rights Watch alerte sur de nouvelles exactions commises sur des civils au Mali. Son nouveau rapport publié aujourd'hui indique qu'au moins 107 civils auraient été tués par l'armée malienne et des hommes armés dans le centre et le sud-ouest du Mali depuis décembre 2021. Le point avec Juliette Koulibaly.
Human Rights Watch indique que ces exactions ont été commises dans les régions de Ségou, Mopti et Koulikoro. Les localités concernées sont notamment Boudjigiré, Dangere, Wotoro et Wurognaga. On constate une hausse dramatique du nombre de civils tués par l'armée malienne et les hommes armés, déclare Corinne Dufla, directrice pour le Sahel à Human Rights Watch. Ces violences ont provoqué le déplacement de plus de 320 000 personnes, précise le rapport. Le document note que de janvier à mars 2022, 49 personnes ont été entendues. Il s'agit des chefs communautaires, des commerçants, du personnel médical, des diplomates étrangers, témoins de 8 incidents. Human Rights Watch souligne aussi avoir adressé un courrier sur ces accusations au gouvernement malien le 4 mars dernier. Ce sont des fake news dont l'objectif est de discréditer les FAMA, avait répondu le ministère de la Défense et des Anciens Combattants, annonce toujours le communiqué. Human Rights Watch estime cependant que ces exactions doivent cesser. L'organisation demande aux autorités maliennes de faciliter la conduite d'enquêtes indépendantes par la Commission nationale des droits de l'homme et la mission de maintien de la paix des Nations unies au Mali. Nos tentatives pour faire réagir la direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA sur la question sont restées vaines.
La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, demande aux autorités maliennes l'ouverture d'une enquête indépendante sur ces accusations. Aguibou Boiré, président de la CNDH, invite aussi l'État malien à donner sa version de fait sur les exactions commises. Il est joint au téléphone par Aïssata Diarra.
Il s'agit des enquêtes sur le terrain, des recoupements, des témoignages. Donc à partir de là, si un rapport est produit, ce qui est demandé à l'État, c'est d'ouvrir une enquête indépendante et impartiale pour attester ou contredire le contenu des témoignages qui sont dans un tel rapport. Cela ne veut aucunement dire que l'objectif est de jeter de l'eau propre sur l'État du Mali ou de saper le moral de l'armée. Nous savons que les forces armées et de sécurité subissent des formations en droit de l'homme, autrement en droit de la guerre. Donc ce sont des règles que les forces armées sont censées appliquer sur le terrain. S'il y a des bavures ou il y a des exactions, il est normal que cela soit relevé afin que les enquêtes soient ouvertes et que les responsabilités soient situées.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. L'atelier de validation de l'avant-projet du Code de justice militaire s'est ouvert ce mardi à Bamako, conduit par la direction de la justice militaire. Cette relecture permettra à la justice militaire d'être plus efficace dans le traitement des dossiers au niveau des tribunaux militaires. Cet atelier de 2 jours enregistre la présence de plusieurs partenaires. Le point avec Amsetou Touré.
Pour le colonel Boubacar Maïga, directeur de la justice militaire, plusieurs innovations seront apportées au code de la justice militaire. Selon lui, cette réélecture permettra de conformer le code de la justice militaire au code pénal et au code de la procédure pénale.
Dans le nouveau code de justice militaire, il est prévu tout un livre pour la prévôté. Cela va faciliter le travail de la gendarmerie sur le terrain. Il y a aussi la carte judiciaire. Actuellement, on a 3 tribunaux militaires au Mali. Le Kaï, Bamako, le Mopti. Le tribunal militaire de Mopti s'occupe de toutes les région du Nord. Vu qu'on est dans un pays très vaste, le code va créer un tribunal à Gao qui va s'occuper des régions du Nord. Donc cela va permettre que la justice soit vraiment très proche des justiciables.
Pour Marin Gurin, conseiller de la rédaction juridique de Cap Sahel, un des partenaires de la justice militaire, ce projet est une vraie avancée dans la protection des droits des militaires.
Le code malien de justice militaire a vraiment besoin d'un renouveau parce qu'il date depuis plus de 25 ans. Et cette modernisation va apporter beaucoup à la fois à la protection de droits, mais aussi va permettre aux militaires de bien faire leur travail.
Rappelons que les travaux de cet atelier interviennent au moment où le tribunal militaire a ouvert une enquête sur des événements dans lesquels les forces armées maliennes sont accusées d'exactions contre des civils au centre du pays et dans la zone frontalière avec la Mauritanie.
Je vous l'annonçais dans les titres, les propositions pour le changement telles qu'exprimées lors des différentes étapes des Assises nationales de la Refondation ne seront pas jetées dans les oubliettes. Cette déclaration est du ministre de la Refondation chargé des relations avec les institutions. C'était ce matin à l'ouverture de l'atelier de validation de l'avant-projet du cadre stratégique de la Refondation de l'État. Cette rencontre de 3 jours vise à valider le cadre stratégique de la Refondation de l'État et son plan d'action.
Cette rencontre est un cadre d'échange sur les propositions faites par les Maliens, affirment des responsables du ministère de la Refondation. Pour le commissaire au développement institutionnel Ahmed Mohamed Yahia, les documents de base s'articulent autour de 5 axes stratégiques.
Un avant-projet de cadre stratégique de Refondation a été élaboré par le ministère en charge de la Refondation de l'État avec un plan d'action quinquennal de 2022 à 2031. Donc il s'agit de voir comment mettre en œuvre ces recommandations et partager cet avant-projet de cadre stratégique et son plan d'action avec les différents acteurs.
Pour les représentants des services publics et privés présents à la rencontre, l'adoption de ce projet permettra la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la Refondation. Dr Kadigatou Boiré, conseiller technique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Après les Assises, on attend vraiment la concrétisation de tout ce qui a été dit et tout ce qui a été proposé comme plan d'action. Donc je crois que c'est le lieu vraiment de voir ces différentes actions réalisées à travers le plan stratégique.
Pour le ministre de la Refondation de l'État, Ibrahim Ikassa Maïga, cet atelier revêt une importance capitale pour son département. Il estime que le document, une fois validé, sera très prochainement introduit dans le circuit pour son adoption.
Sport football, les préparatifs pour le dernier match de barrage pour la Coupe du Monde Qatar 2022 vont bon train. Pour la manche aller, Moussa Djenepo, Sedou Keita, Fousseni Diarra ou encore Ibrahim Bosso Munkoro ont décidé d'offrir gratuitement des tickets aux supporters. Ces gestes visent à mobiliser les supporters maliens pour soutenir les aigles en vue de la rencontre contre la Tunisie. Omar Ouégalo nous en dit plus.
Les coûts des tickets et les frais de déplacement ne sont pas à la portée de tout le monde, affirme l'Union nationale des supporters des Aigles du Mali. Sekne Demba, vice-président de l'INASAM, salue ses gestes et invite les supporters à sortir massivement pour soutenir l'équipe nationale.
Quand on met les billets à 2 000 francs, 1 000 francs, les gens doivent acheter de l'essence, ensuite payer la longueur des motos. C'est un appui important. À ma qualité de responsable des supporters du Mali, je profite encore pour donner rendez-vous à tout le monde pour le 25.
Brissa Nyono, journaliste consultant, estime que les joueurs ont besoin de l'appui des supporters pour une qualification historique au Mondial. Selon lui, ces dons de tickets visent à motiver les supporters déçus par la prestation des Aigles du Mali lors de la dernière CAN.
C'est pour exprimer leur patriotisme et également appeler tout un chacun à la mobilisation autour des Aigles du Mali. Lors de la dernière CAN, il y a eu de la déception, mais en quelque sorte, c'est leur apporter de la motivation parce qu'une qualification à la Coupe du Monde également, ce serait historique pour le Mali.
À noter que les billets seront distribués par la mairie entre les supporters des 6 communes du district de Bamako la semaine prochaine. Le duel Mali-Tunisie est prévu le vendredi 25 mars au stade du 26 mars de Bamako. Le match retour se jouera le 29 mars à Rades en Tunisie.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Un tour dans les régions, des bandits armés ont attaqué dimanche des forains de Tissala de leur retour de la foire hebdomadaire de Konobubu dans la région de Ségou. Des sources locales indiquent que les assaillants ont dépouillé les forains de leurs agents et téléphones portables. Les mêmes sources ajoutent qu'au moment des faits, ils ont tiré sur un motocycliste de passage. Deux des bandits gravement blessés par une foule de jeunes ont été arrêtés par la gendarmerie. Ils se trouvent actuellement à l'hôpital de Ségou. 30 jeunes du cercle de Yoroso prennent part depuis hier à une session de formation en aviculture et en embauche des ruminants. La session de formation est organisée par l'intercollectivité Samporogo de Yoroso. Son objectif est d'améliorer la productivité en embauche et en aviculture chez les jeunes et de lutter contre le chômage. Elle va durer 5 jours. Hausse du prix de l'aliment bétail dans le cercle d'Al-Mostarat, région de Gao. Le sac de 40 kg qui était cédé à 10 000 francs CFA passe à 12 500 francs CFA. Selon les commerçants, cette hausse est due au manque de l'aliment bétail dans la capitale régionale Gao. Les éleveurs appellent les autorités et les ONG à intervenir pour pallier cette situation. Dans un instant, ce sera le grand dialogue. Bonsoir, Imrana Kilumega.
Bonsoir, c'est tout.
Ce soir, vous allez aborder quel sujet dans le grand dialogue?
Nous allons aborder les questions de droits de l'homme. Quelle analyse du rapport de Human Rights Watch avec quatre invités sur ce plateau? Ibrahim Soumaré, ancien ambassadeur, analyste en diplomatie, en stratégie. Nahan Magasouba, présidente du mouvement populaire pour la cohésion sociale au Mali, MPC Mali. Mohamed Ben Mamata Touré, président de l'association Mali. Et enfin, Mahamad Oumar Dambélé, membre de la cellule de communication du collectif pour la défense des militaires CMD.
Merci Mirana et très bon débat. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.sotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez à notre écoute. Dans un instant, la question A. La semaine mondiale du glaucome a été célébrée ce 15 mars au Mali. Cette pathologie oculaire, autrement appelée malvoyance, est la première cause de cécité au Mali, expliquent des spécialistes. Pour des ophtalmologues, cette malvoyance peut être évitée si le glaucome est rapidement dépisté et traité chez l'enfant aussi bien que les adultes. Professeur Lamine Traoré est ophtalmologiste et coordinateur du Programme national de santé oculaire. Il répond aux questions de Awakar Choberté.
Cette maladie peut arriver à tout moment de la vie. La seule solution, c'est d'aller consulter un ophtalmologiste qui va pouvoir vous dire « Ah, votre nerf est normal » ou « Votre nerf n'est pas normal » et c'est dans le cadre d'une maladie qu'on appelle le glaucome.
Quels sont les symptômes?
Pour simplifier, il n'y a même pas de symptômes. C'est-à-dire, il y a rarement des signes qui vont faire que la personne va penser au glaucome. Mais il y a quelques signes qu'on cite le plus souvent. Souvent, il y a des maux de tête quand il y a la tension de l'œil qui est élevée. Souvent, il peut y avoir un brouillard. Souvent même, il peut y avoir ce qu'on appelle un arc en ciel. Mais ces signes-là sont très rares. Alors, c'est pour cela qu'on n'insiste même pas là-dessus.
Quelles sont les causes?
Il n'y a pas de cause connue à l'heure actuelle. C'est l'hérédité qui est la cause principale, c'est-à-dire une maladie qui se transmet de famille en famille. Il y a aussi des causes qui sont plus compliquées, qui ne sont pas communes. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le traumatisme. C'est-à-dire quand quelqu'un vous jette un objet dans l'œil, ça peut entraîner une augmentation de la tension de l'œil et entraîner le glaucome. Alors, il peut y avoir aussi des causes liées à des maladies de l'œil.
Est-ce que la maladie se transmet?
Une maman qui a le glaucome peut le transmettre à son enfant. Un papa qui a le glaucome peut aussi le transmettre.
Une estimation des cas au Mali?
Alors, au Mali, nous n'avons pas fait d'enquête nationale, c'est-à-dire sur tout le territoire. Mais en 2012, nous avons fait une enquête à Bamako chez les personnes âgées de 30 ans et plus. Alors, nous avons constaté que sur 100 personnes, il y a à peu près 4, voire 5.
Comment traiter et comment prévenir?
Alors, la prévention, il n'y en a pas. Le meilleur remède pour prévenir, c'est d'aller faire des consultations. Alors maintenant, pour le traitement, il y a beaucoup de façons. On peut opérer, le glaucome s'opère, mais à un stade relativement précoce. On peut aussi faire le laser, mais ce type de laser est tellement cher que ça n'existe pas dans beaucoup de structures. Et le traitement qui est le plus répandu, ce sont les médicaments.
Est-ce que ça se guérit?
Ça ne peut pas se guérir totalement, mais c'est un traitement à vie, comme on le dit. On peut faire toute sa vie en faisant le traitement et en faisant des contrôles réguliers auprès de son médecin. Alors tout ça là va faire en sorte que vous puissiez garder
votre vision pendant, encore une fois, tout le restant de votre vie.